Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire que nous arrivons à la fin de cette partie. Mais ça continue. Donc, aujourd'hui, nous avons l'étude numéro 10 de Jésus-Christ en vous par le Saint-Esprit. L'étude numéro 10. Alléluia. Oui, que nous sommes lents, et il est vrai, nous sommes tous lents à comprendre ce que est vraiment la volonté de Dieu. Souvent vous dites que vous avez pris telle ou telle décision, c'est là, si vous y réfléchissez bien, une chose très grosse de conséquence, car une vraie décision déclenche un processus psychologique qui amène la manifestation extérieure de l'idée. Ainsi, vous dites par exemple, voici quelque chose qui ne va pas en moi, c'est-à-dire dans ma façon de raisonner ou d'arranger mon existence. Je décide donc à l'instant qu'il n'en sera désormais plus ainsi. À ce moment précis, vous mobilisez toutes les énergies de l'univers, toutes les énergies, on peut dire, connues ou inconnues, pour que s'accomplisse ce que vous avez vraiment décidé. Hein ? On est bien clair là-dessus. Donc, vous voyez qu'il n'est pas possible, sur le plan spirituel, de vivre d'une façon insouciante, c'est-à-dire à la légère, et ces instructions seraient sans efficacité aucune si l'on refusait de s'élever jusqu'à la vraie conscience spirituelle en Jésus-Christ. Où en effet, la volonté de Dieu pourrait-elle trouver son expression sinon dans la vie, et plus particulièrement dans la vie de l'homme, cet être qui tient consciemment son existence de Dieu et dont le cœur et les facultés doivent demeurer à sa disposition. Prenez donc conscience de cette responsabilité qui vous oblige à rendre opérante par vous la volonté divine. Mais alors, vous me posez effectivement cette question, voyons, pourquoi les volontés et les désirs que nous exprimons ne se réalisent-ils pas? Eh bien, c'est parce que tout au fond de vos désirs, de vos pensées et de vos intentions, il y a comme un contre-courant, comme une pensée cachée dans la pensée, comme un désir caché dans le désir, et c'est toujours ce que vous désirez vraiment dans la réalité obscure du subconscient qui détermine vos impressions passagères et vos humeurs du moment. Ne vous est-il jamais arrivé de reconnaître que la chose que vous aviez désirée n'était pas compatible avec votre bien véritable et éternel? Eh bien, cette lueur de vérité, cette faible révélation, émane de votre moi profond, celui qui seul peut édifier votre vie. Dans votre conscience intime, en effet, vous êtes en état de reconnaître ce qui assure le mieux votre bien supérieur. Et dès que vous écoutez cette voix subtile qui se fait entendre au-delà de vos propres, on peut dire, de vos propos avoués, hein? Et là, notez Ésaïe, chapitre 30, versets 21 et 22. Eh bien, vous rejoignez ainsi la volonté de Dieu qui est votre volonté profonde, c'est-à-dire la voix de l'Esprit Saint en vous. Soyez donc toujours attentifs à ce qu'elle vous suggère. Ne péchez pas contre le Saint-Esprit, sinon vous finiriez par perdre l'œil et l'oreille véritable et par devenir aveugle et sourd. Ce serait un vrai désastre pour vous, car vous êtes sur terre pour apprendre à faire jouer vos sens et vos facultés afin que s'accomplisse la volonté divine. C'est là votre vraie nourriture. Notez Saint Jean, chapitre 4, verset 34. Mais cette sainte voix intérieure, elle est si douce et subtile, on peut dire tellement subtile, qu'il faut établir en soi le silence et se faire très humble pour pouvoir l'entendre. Replacez-vous toujours à nouveau devant l'enseignement de Jésus. Relisez les évangiles jusqu'à ce que tombe le voile qui vous cache à vous, qui vous cache à vous-même les choses essentielles. Je n'ai fait que répondre à votre question, mais je compte reprendre avec vous ce sujet. Que la paix et la grâce d'en haut vous soient données. Dieu vit en vous par le Saint-Esprit. Oui, il est votre vie. Chers amis, nous vous l'avons déjà dit, en réalité, l'espace n'existe pas. Pour vous, comme pour nous, opère la loi d'attraction ou de gravitation spirituelle, mais la conscience que vous avez d'appartenir à un monde où tout est limité et où la notion de distance est essentielle, tout cela vous rend partiellement aveugle et sourd. Plus tard, vous vous rendez compte, plutôt vous vous rendrez compte, que désirer vraiment quelque chose, c'est bel et bien de l'obtenir. On prie pour cela. Ainsi, lorsque nous désirons vous voir notre pensée, elle devient une force animée et nous sommes immédiatement en votre vraie présence, bien réellement avec vous. Je répète, lorsque nous désirons, nous, moi, vous voir dans notre pensée, dans ma pensée, tout cela devient donc, vous allez le comprendre, une force qui est animée et ainsi nous sommes immédiatement en votre véritable présence, c'est-à-dire réellement avec vous. C'est peut-être difficile à comprendre, mais je suis sûr qu'on y arrive. La pensée est là une telle puissance et également une très grande rapidité. Chacune de nos pensées se projette extérieurement. Bien que vous soyez encore incapable de vous en rendre compte, il vous est impossible de penser sans qu'il en résulte quelque chose. Ayez donc grand soin, lorsque vous pensez à une chose quelconque, de vous maintenir sur le plan d'une saine spiritualité. Tout ce qui a trait au temps et au monde physique des sens n'a pas plus de valeur à nos yeux que n'en auraient aux vôtres des jouets d'enfants. Vous rejetteriez tout cela une fois parvenu à un état de conscience supérieur. Ce qui vous empêche, pour le moment, de nous rejoindre dans une communion habituelle est en somme assez peu de choses. C'est le fait que vous êtes encore incapable de vous maintenir toujours au niveau proprement spirituel pour y respirer à l'aise et y voir ou y entendre toutes choses avec les yeux ou les oreilles de l'esprit. Tout effort par lequel vous vous élevez aide les autres à s'élever aussi. Efforcez-vous donc, par conséquent, d'être toujours en état d'alerte, vigilant, lucide et persévérant dans votre action, mais plein d'amour surtout. Vous êtes constamment porté par le flux et le reflux du souffle divin. La planète toute entière est constamment balayée par ce souffle puissant qui guérit. Si je m'exprime ainsi, c'est en pensant aux guérisons à effectuer. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous s'efforcent d'amener les hommes à débarrasser la terre des asiles, des pénitenciers, des prisons et autres lieux où l'on rassemble des malheureux de même condition, car ils pourraient être aidés, ils pourraient être guéris d'une façon tellement plus efficace s'ils vivaient au contact d'hommes et de femmes qui se soient assimilés les grandes vérités qui se trouvent dans les quatre évangiles. Dieu ne vous appelle pas à épuiser votre vie dans des efforts et des conquêtes sans lendemain. Il a pour vous des intentions royal. Il vous veut ouvrier avec lui. Que Dieu fasse reposer sur vous sa bénédiction et vous fasse mourir au péché pour ne plus vivre que de lui. Chers amis, quand les idées nouvelles font leur chemin, beaucoup d'idées anciennes volent en éclats, car certaines de nos conceptions et de nos idées n'ont qu'une valeur très relative. Elles appartiennent à un certain stade du développement humain et nous préparent à recevoir un jour la vérité définitive. Alléluia. Dans l'utilisation de l'énergie électrique, on se garde bien de faire passer un courant qui dépasserait la capacité de l'installation. Si nous essayons de retenir des idées qui ne répondent plus aux exigences de l'heure, elles finissent par exploser et par se détruire elle-même. C'est l'histoire du vin nouveau qui exige des outres neuves. La seule chose que je vous conseille, afin d'éviter de vous égarer, c'est de vous tenir aussi près que possible à ce qui nous est transmis dans le vieux livre, c'est-à-dire la Sainte Bible. Regardez donc vers l'avenir. Le grand ébranlement qui secoue actuellement la planète reste sous le contrôle de Dieu. Il en résultera des vues entièrement renouvelées et une façon de penser plus noble et plus subtile. Ouvrez-vous donc à cet esprit nouveau. Ne vous cramponnez absolument pas au passé. Soyez comme des nouveau-nés. Offrez-vous au flot de lumière qui vient du grand soleil central. Vous en ressentirez des effets stupéfiants qui dépasseront tout ce que vous pouvez imaginer. Vos facultés mentales seront affinées et aiguisées et vous percevrez le monde véritable. Plus de doute ni de peur. Partout d'ailleurs, le monde s'éveille déjà. Il s'éveille à une vie nouvelle. Il secoue les credos fossilisés et les formes religieuses qui sont périmées. Vous percevez une présence de vérité, c'est-à-dire celle du Christ vivant dans un corps nouveau et glorieux. Il est là au milieu de vous, en sa qualité de Seigneur et de Roi. Et oui, il tient les clés qui vous ouvriront les portes de l'avenir. Il vous dit par notre voix, « Je suis venu pour renvoyer libres tous les prisonniers et tous les captifs. Mais ce n'est plus seulement pour vous guérir physiquement, comme autrefois, mais c'est pour ouvrir les portes de vos prisons mentales et spirituelles dont vous avez fait des nécropoles. Réveillez-vous. Partout s'ouvre la vie nouvelle. Bientôt, l'unité se fera. L'immanent et le transcendant se rejoindront en une seule grande flamme de vie. Pendant cette période, toutes les inventions se multiplieront et auront des conséquences insoupçonnées. Un courage nouveau s'emparera de vous. Les extrémités de la terre se rejoindront et les distances disparaîtront. Vous savez qu'on fait des jets, des avions, qui vont trois fois plus vite qu'autrefois. Pensez donc, bientôt, on va pouvoir relier Paris à New York en peut-être trois quarts d'heure. Ça paraît insemblable. Oui, ça paraît insemblable. Ça paraît une utopie. Mais bientôt, ce sera réalisé. Ne va-t-on pas déjà sur Mars, en tout cas, avec les projets qui sont en cours. Et une fois que ces projets sont en cours, eh bien, la réalité, elle se réalisera très, très bientôt. Mais il y a une chose que l'être humain oublie. La tour de Babel, c'était pas un mythe. Jésus-Christ n'est pas un mythe. Sachez que très bientôt, Dieu va arrêter, je dis symboliquement, l'histoire de la tour de Babel et l'histoire des progressions fulgurantes de cette civilisation sans Dieu. C'est grave. Il va stopper tout cela très bientôt. Mais continuons notre étude. Les merveilles que recèle pour vous le plan divin dépassent vos rêves les plus hardis. La sagesse divine sera donnée à beaucoup de vos enfants. Au reste, souvenez-vous que pour l'esprit et la vie que Dieu donne, l'âge n'a plus du tout d'importance. Ne suis-je pas à 90 ans et je vous parle maintenant, à cet instant même, ce qui devrait être impensable. Chers amis, faites place en vous à la jeunesse, la vraie, celle qui est au centre de toute vie. La jeunesse éternelle est joyeuse. Les rayons du soleil divin traversent déjà les brumes de la terre. Déjà, l'on entend la voix des anges qui proclament « Toute la terre est remplie de sa gloire. Ils arrivent de toutes parts, ceux qui apportent la lumière. » Et cela n'aura rien à faire avec des inter... ou je ne sais pas comment vous appelez tout cela, des humanoïdes qui vont donc envahir la Terre. Rien du tout de tout cela. La planète va vers son équilibre définitif. Si des désastres s'abattent sur vous, ne vous laissez pas effrayer. En toute vérité, il s'agit des jours qui préparent sa venue. Vous savez qui c'est, sa venue. C'est la venue du Messie, de Jésus-Christ, en grande puissance, pour l'établissement de son royaume. Chers amis, ne voyez l'avenir que dans sa lumière. À propos de Christ, le Christ est en vous. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Vous dites que l'esprit est la seule réalité et que les choses matérielles n'ont pas d'existence réelle, qu'elles n'ont de réalité que celle que leur confère notre pensée. Et pourtant, vous affirmez aussi que le corps est l'unique véhicule ou l'unique moyen de manifestation et qu'il doit être estimé à sa juste valeur puisqu'il existe pour que se réalisent les intentions divines. N'y a-t-il pas là une certaine contradiction? Voici la réponse. Sans doute ces affirmations peuvent-elles créer quelques confusions dans les esprits? Voici ce qui m'a été montré et ce qui peut vous aider également. La forme que se donne la vie n'est pas la vie elle-même, mais le monde visible, celui auquel appartient votre corps et l'univers, semble être réel dans ses formes extérieures. La forme, pourtant, ne tient sa réalité que de l'esprit. Que l'esprit se retire et la forme disparaît. elle s'évanouit dans le non manifesté. Qu'est-ce donc que la matière? Un aspect de la réalité ou de la substance spirituelle? C'est le corps de Dieu, le corps de Dieu qui emplit absolument toute chose. En méditation, je vois souvent différents états de la matière conditionnés par le rythme vibratoire de la lumière vie, et je comprends que notre degré d'évolution spirituelle conditionne l'expression que nous donnons à la vie. Selon le degré de lumière que nous portons en nous, nous bâtissons avec des matériaux plus ou moins denses ou tenus. Mais notre construction n'est jamais de la matière pure. C'est toujours de la pensée qui est habillée dans une forme extérieure. L'énergie créatrice, en effet, ne peut s'exprimer que dans des formes, par la vue ordinaire. Nous ne voyons pas les formes innombrables que produisent nos pensées. Nous ne percevons que celles qui appartiennent au plan des fortes densités, celles qui vibrent à notre niveau. C'est en considérant la vie comme un phénomène de consistance que nous parvenons le mieux à la connaissance vraie, c'est-à-dire celle qui émane du grand « je suis », c'est-à-dire Yahvé l'Éternel. Mais nous, qui sommes pourtant doués de conscience, nous nous maintenons habituellement à la surface des choses et nous en venons à perdre de vue le centre d'où émane la vie. Pensez un peu à ce que serait le monde si nous ne nous étions jamais servis du libre arbitre pour créer en marche de la volonté divine et surtout contre elle. Nous n'aurions alors, on peut dire, nous aurions créé que des choses bonnes. C'est d'ailleurs ce que nous serons amenés à faire un jour lorsque tel le fils prodigue retournant à la maison paternelle, nous aurons réintégré notre état de conscience originel. Mais sans doute, les dures expériences qui résultent pour nous de la chute d'un état de conscience spirituelle dans un état de conscience lourd de matérialité, était-elle vraiment nécessaire? C'est en nous éloignant de Dieu que nous avons su que nous étions fils de Dieu. C'est toujours cette histoire du fameux fils prodigue. Ainsi même, dans nos échecs, nous voyons la sagesse divine nous ramenant tel un fil d'or dans le chemin du salut. Elle sait transformer nos fautes en expériences acquises en vue des constructions à venir. Et parce que nous acceptons alors d'être ouvriers avec Dieu, la terre deviendra le royaume du Christ. De cela, j'ai absolument la certitude, car je vois qu'au terme de notre pèlerinage ici-bas, nous aurons transmuté le mal en bien. Et alors, une fois parvenus à notre état de conscience véritable de fils de Dieu, nous verrons naître des mondes tout nouveaux, car il n'y a pas de fin au processus créateur. La joie suprême, pour autant que cela nous ait été révélé, c'est d'entrer dans l'extase de la conscience cosmique. Or, nous pouvons y parvenir dès cette vie terrestre et par la vision intérieure, nous pouvons pénétrer profondément en ce qui concerne notre vie personnelle, et cela de notre planète dans l'idée de Dieu. Il faut donc reconnaître la valeur de toute manifestation, et le corps physique est, de ce point de vue-là, un véhicule indispensable au plan terrestre. Le Christ et nos semblables en ont besoin pour le service que nous leur devons. Pour le moment, nos corps ne sont pas encore parfaits. Il ne manifeste pas pleinement le moi divin. Mais quand viendra la perfection, ce qui est imparfait disparaîtra. Notez 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 10. Dieu pense à l'homme et l'homme surgit. La réalité de notre être, c'est la pensée de Dieu. L'esprit est l'unique substance parce qu'il est indestructible. Il est toujours en mouvement, créant toujours des formes nouvelles et alimentant la vie. Mais les formes disparaissent, ils disparaissent peu à peu, quand on s'approche du centre, elle foisonne à la surface, mais le centre, c'est-à-dire le moi, dans sa pureté essentielle, est un en Christ Jésus et en notre Père Céleste, Yahvé l'Éternel, le Dieu de tout l'univers. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre encouragement et aussi pour que vous puissiez encore davantage recevoir une nourriture spirituelle. Écoutez bien. Vous pouvez à tout moment respirer près du Seigneur l'air vivifiant des sommets grâce à l'Esprit Saint qu'il vous apporte. Que pouvez-vous faire de mieux pour les autres que de les amener à comprendre qu'en s'ouvrant à son Esprit Saint, tout obstacle à leur croissance spirituelle est éliminé? Tandis que sont pleinement satisfaits les plus hautes aspirations de leur nature. Ce n'est pas en pensant à Jésus, mais en demeurant en lui, que toute crainte est parfaitement surmontée. Là où le Seigneur est réellement présent, on n'appréhende plus rien. La peur fut effectivement vaincue à jamais quand il réduisit Satan à l'impuissance. Si tous ses disciples se persuadait bien de cela et le proclamait avec force, on n'aurait même plus besoin de violence extérieure pour repousser le mal. Maintenant, prions ensemble, s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, Sauveur de nos âmes, daigne écouter les prières de tes faibles créatures. Fais naître dans leur cœur un désir sincère et fervent de s'élever à toi, de te connaître, de t'aimer et de te servir. Fais briller à nos yeux quelques rayons de cette lumière de vérité qui seule peut dissiper les ténèbres de notre intelligence et les erreurs qui nourrissent le doute et l'incrédulité. Ô Dieu, que la sublime simplicité de ton évangile ne soit jamais pour nous qu'un sujet d'admiration et d'action de grâce, et qu'elle nous fasse comprendre que nous devons te chercher avec humilité et en devenant simples comme de petits enfants. Seigneur, dessile nos yeux. Viens toi-même convertir nos cœurs. Viens produire en nous la foi et l'espérance. Que chacun de nous sente véritablement que Christ est son Sauveur et que tous nous passions de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Bénis-nous pendant cette journée. Rends-nous sérieux et attentifs aux seuls intérêts véritables de nos âmes. Prépare-nous à accepter avec une confiance filiale toutes tes dispensations. Si telle est ta sainte volonté, préserve-nous des dangers qui pourraient nous atteindre, mais que surtout nous soyons prêts à paraître devant toi à quelques heures que tu nous appelles. Ô Seigneur, exauce notre humble prière au saint nom et pour l'amour de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Et chers amis, vous savez que Dieu vous aime. Vous savez que le Seigneur aime tous ceux qui un jour ont eu le courage de comprendre, qui ont eu assez d'humilité pour saisir la réalité qu'ils étaient perdus et qu'en acceptant la main tendue de Jésus-Christ, ils pouvaient être sauvés, que Jésus-Christ a payé le prix fort à la croix en mourant et donnant son sang précieux pour nous racheter, pour nous sauver. Et il est ressuscité pour bientôt nous prendre avec lui. Les uns comme moi, bientôt, vous qui écoutez, par la suite. Mais c'est aussi bientôt, parce que qu'est-ce que c'est ? Une heure par rapport à l'éternité. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse et demain, Dieu voulant, la suite, un peu différemment, mais sur le même sujet. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse et je vous embrasse en vous embrassons avec tout mon amour. À bientôt. Bye bye.